Bonjour, c'est Emmanuel de Cassel dans le Nord. Alors ce week-end, je crois le premier de l'an, il y avait un petit reportage aux 13h de samedi ou de dimanche où on entendait des gens sur une plage, c'était dans le Pays Basque, qui se gargarisaient du fait qu'il faisait 26 degrés, c'était génial et tout ça. On a envie de dire, mais jusqu'à quand on va faire des petits reportages comme ça, bienveillants, un petit peu bon enfant, comme ça, sur le drame qui est en train de se jouer sous nos yeux. L'année prochaine, il y aura peut-être le même reportage avec des gens qui feront un barbecue sur la même plage et qui feront « Ah ah ah, c'est super, il fait 30 degrés, on est le 1er janvier, c'est génial. » Aucune contradiction, rien du tout, tout le monde est content. Il n'y a pas de problème. Eh ben s'il n'y a pas de problème, eh ben continuons. Allez, bonne journée à tous et bonne année quand même.
Bonjour, je suis Josiane Duvar, au Thoronnais, à côté de l'abbaye. C'est juste une petite réflexion humoristique pour bien commencer l'année. Plutôt qu'Homo sapiens, je pense que c'est plutôt Homo sapiens actuellement. Voilà. Enfin, quand je dis actuellement, ça fait depuis les années 70 que nous, les vieux boomers, on gueule, on parle, on milite, on empêche les OGM, le gaz de schiste, le machin, le nucléaire. Et maintenant, oh là là, ça va mal, c'est à cause des boomers qu'ils ont joui de partout. Non, pas tous. Enfin, Homo sapiens, il serait temps que tu te réveilles. Ciao et bisous à tous.
Yves-Marie, au Neubourg, dans l'Eure. Notre jeune association livre un combat contre la décision de la municipalité d'abattre 146 arbres sur les 167 que compte l'allée du champ de bataille inscrite à l'inventaire des monuments historiques. Selon l'expertise de l'ONF, seuls 36 arbres méritent d'être abattus et non 146. Et selon le diagnostic de l'ALPO, si 146 arbres sont abattus, les espèces protégées qui vivent dans cet environnement disparaîtront purement et simplement. Alors si nous vous contactons aujourd'hui, c'est dans l'espoir qu'une couverture médiatique comme la vôtre conduira la municipalité à rétro-pédaler. Merci, au revoir.
Bonjour la Terre au Carré, c'est Guénolé. Je vous appelle depuis Angers, dans le Maine-et-Loire. J'ai 19 ans et l'avenir climatique est une source d'angoisse pour moi parce que quand on regarde le monde actuellement à plus 1,1 degré de réchauffement, il y a déjà chaque été de gigantesques feux de forêt aux quatre coins de la planète, mais aussi des sécheresses, des inondations, j'en passe. Donc je n'ose même pas imaginer à quoi ressemblera un monde à plus 2 degrés, car c'est au moins vers quoi on se dirige, sinon pire. Donc, on vient d'entamer l'année 2022, et 2022, ça rime avec les présidentielles. Alors, avec des amis qui étudient dans la même école que moi, on a lancé une pétition pour placer l'écologie au centre du débat médiatique et politique, parce qu'on en a marre d'entendre parler toujours d'immigration ou de sécurité, alors que c'est le changement climatique qui menace vraiment notre avenir. L'objectif de cette pétition, c'est de mettre la pression sur l'ensemble des candidats et candidates à la présidentielle pour qu'ils et elles présentent un plan d'action écologique à la hauteur de l'urgence climatique. On a besoin de soutien et ce serait super que la Terre au Carré diffuse mon petit message et on espère que 2022 sera l'année du grand changement, l'année de la véritable transition écologique dont on a tant besoin, surtout nous, des jeunes, j'ai envie de dire, puisque on a envie d'avoir un monde habitable dans les prochaines décennies.
Merci beaucoup pour vos messages. En tout cas, apparemment, vous avez beaucoup d'idées pour inspirer les candidats à la présidentielle en matière d'écologie, que vous soyez jeune ou vieux boomer. Eh bien, laissez-nous vos messages et vos idées, celles qui vous semblent en tout cas prioritaires en matière d'écologie. 01 56 40 45 45 pour nous laisser vos messages sur le répondeur à tout moment et bien sûr pour faire entendre votre voix. Elle incarne cette nouvelle génération de militants écologistes qui partent au combat. Ses armes, à elle, sont les codes juridiques pour défendre devant les tribunaux les droits de la nature. Mais les objectifs de cette activiste sont encore plus ambitieux puisqu'elle veut faire reconnaître que des écosystèmes comme les fleuves ou les rivières soient reconnus comme des sujets de droit à part entière, au même titre que les humains ou les entreprises. Avocate de formation juriste en droit de l'environnement et des peuples autochtones, Marine Calmet recevait en décembre dernier le prix du livre d'écologie pour son ouvrage « Devenir gardien de la nature » paru chez Tana Éditions et dans lequel elle raconte son engagement sur le terrain en Guyane contre, entre autres, le projet de mine industrielle Montagne d'Or. C'est donc l'occasion de la recevoir aujourd'hui dans la Terre au Carré pour bien commencer l'année et faire connaissance avec elle et mieux comprendre son combat. Marine Calmet, bonjour.
Bonjour et bonne année.
Merci à vous, très heureux de vous accueillir. Je vous voyais très attentive aux messages des auditeurs. Qu'est-ce que ça vous inspirait de les entendre, ces messages ?
J'étais ravie de voir qu'il y avait des jeunes, des vieux, et que tout le monde se tire la main pour profiter aussi du temps de parole qu'ils peuvent avoir et à fond aller sur l'écologie en 2022.
Oui, absolument. On va en parler avec vous. Ce prix, en tout cas celui que vous avez reçu, récompense votre lutte, mais aussi toutes les personnes qui, comme vous, se battent dans le monde entier pour les droits de la nature. On en discute justement avec les auditrices et les auditeurs pour évoquer ce parcours de juriste militante avec les messages sur le répondeur, si vous le souhaitez, mais les réseaux sociaux également, la page de la Terre au Carré et l'application France Inter avec les notes vocales. Elle revient en pleine forme. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde et bienvenue tout le monde en 2022.
Ouais, on passera au vert à 14h30 évidemment.
Avec le phénomène Don't Look Up, ce film sorti en ligne à Noël qui fait beaucoup parler aussi les scientifiques.
Voilà pour le sommaire de l'émission, réalisé par Valérie Ayestaraï, préparé par Lucie Sarfati avec Nicolas Delmas aujourd'hui à la technique.
Mathieu Vidard. La Terre au Carré. Sur France Inter.
Au nord-ouest de la Guyane, à une centaine de kilomètres de Saint-Laurent-du-Maroni, le site minier doit s'étendre sur 8 km² entre deux réserves naturelles protégées. Le projet de la Montagne d'Or est porté par un consortium russo-canadien.
Deux sociétés internationales ont une solide expérience des mines d'or industrielles.
Dans cette vidéo promotionnelle, la Montagne d'Or promet beaucoup d'argent pour l'économie locale sinistrée. 3 milliards d'euros de retombées potentielles. La mine doit produire 85 tonnes d'or pendant 12 ans et générer 750 emplois directs. Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, s'était rendu sur le site pour soutenir le projet. Un intérêt réaffirmé il y a quelques mois par le chef de l'État.
C'est un projet qui, je le pense, sur ses fondamentaux, peut être bon pour la Guyane. Je souhaite que la Guyane puisse réussir avec ses atouts. Et je ne suis pas pour mettre la Guyane sous une cloche.
Mais les associations écologistes, elles, s'inquiètent de la déforestation et des rejets potentiels de produits chimiques dans les cours d'eau, parmi lesquels le cyanure, qui sert à extraire l'or. L'exploitation de la Montagne d'Or pourrait débuter en 2022.
Voilà, et ça date de 2018. Pour planter le décor sur ce dossier que vous suivez de très près, c'est votre grande lutte, Marine Calmet, ce projet de Montagne d'Or. On va voir où ça en est, évidemment, aujourd'hui. Vous qui êtes avocate de formation, qui avez passé beaucoup de temps sur le terrain en Guyane, juriste en droit de l'environnement et des peuples autochtones. Et donc, votre actualité, je le disais, c'est ce prix d'écologie reçu juste avant Noël et qui récompense donc cet ouvrage, Les Gardiens de la Nature. C'est sorti donc chez Tana Éditions. Et ce prix, finalement, tombé à point nommé, vous le rappeliez vous-même, puisque au moment où vous le receviez, vous appreniez le rejet par la commission départementale des mines de Guyane de la demande de renouvellement des concessions minières de cette justement compagnie Montagne d'Or. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le combat avance, que le projet en est au point mort. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment cette... C'est pas une décision d'ailleurs, c'est un avis.
C'est un avis consultatif, mais il révèle qu'à l'intérieur peut-être du gouvernement, il y aurait un avis qui a été donné en disant il faut au moins de façade, dire qu'on est contre le projet. C'est-à-dire, notre position officiellement, c'est de dire nous ne sommes plus pour le projet Montagne d'Or, nous considérons que ça appartient au passé. À l'intérieur, par contre, il faut bien voir que dans les couloirs de Bercy et de l'Élysée, les choses ne sont pas pareilles. Rien, et nous n'avons vraiment aucun gage que le projet soit vraiment abandonné. D'ailleurs, en septembre 2021, la société Montagne d'Or a annoncé un nouveau projet, greenwashé, alors avec une centrale électrique hybride, du photovoltaïque, et puis depuis ce moment-là, on n'a pas vraiment eu de nouvelles du gouvernement, de réaction. Ouais. Et il faut savoir que Bercy et les ministères de la transition écologique, malheureusement, n'a pas su faire obstacle à la prolongation de la concession minière de Montagne d'Or. Donc, sur le papier, Montagne d'Or peut toujours continuer.
Ouais. Donc cet avis, effectivement, il est juste là, consultatif, mais c'est quand même un bon signal qui est envoyé par rapport aux luttes que, justement, vous avez menées avec tout tous les militants sur place en Guyane.
Bah, disons que peut-être Emmanuel Macron a compris que sur le terrain, on n'était pas prêt de baisser les bras et que la mobilisation, elle n'était pas prête de retomber. Et donc, il faut continuer à mettre la pression pour que ce gouvernement ne puisse en rien revenir en arrière sur ses engagements.
Ouais, le problème, c'est que ça n'est un projet que parmi tant d'autres, au fond, en Guyane aussi, hein, parce oui. qu'il a été beaucoup médiatisé, mais il y en a d'autres.
Il a été médiatisé, mais derrière, il y a son frère jumeau qui attend, le projet Espérance et bien d'autres projets. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la surface préemptée par les compagnies minières en Guyane, c'est 4% du territoire. C'est énorme. C'est 4% du territoire qui est menacé par l'industrie minière. Alors même qu'on le sait aujourd'hui, il faut tourner cette page. D'ailleurs, la Convention citoyenne pour le climat l'avait demandé à nos côtés, avait dit qu'il faut abandonner définitivement l'industrie minière en Guyane pour protéger le climat et la biodiversité. Emmanuel Macron avait refusé cette proposition parmi tant d'autres et était passé outre pour une pseudo-réforme du code minier qui aujourd'hui, malheureusement, ne porte pas ses fruits puisque le projet Montagne d'Or, il est toujours bien présent.
Donc rien n'est gagné encore, effectivement, en ce début d'année. Mais heureusement, il y a des bonnes nouvelles quand même sur le front de la nature et des combats que vous menez. Mais c'est vrai que cet exemple-là incarne vraiment la mobilisation et ce que vous faites hein, depuis maintenant quelques années autour de cette idée de gardien, de gardienne de la nature. Et d'ailleurs, c'est un prix que vous avez souhaité partager avec les peuples autochtones sur place en Guyane qui, eux, bah, sont confrontés aussi quotidiennement à cette réalité-là. Hein.
Alors, autant les membres du collectif Hors de Question qui ont fait un travail extraordinaire que l'ensemble des jeunesses autochtones de Guyane, ce sont eux en fait qui ont cette victoire aujourd'hui, qui ont ce prix parce que c'est leur histoire et puis c'est notre engagement à tous qui a fait qu'on a réussi à faire basculer finalement le combat contre Montagne d'Or et qu'on a réussi à se faire entendre comme quoi c'est possible, personne n'est trop petit pour agir tant qu'on se donne tous la main.
Ouais, mais on verra que même sur place il y a beaucoup de pression de la part aussi des habitants qui ne sont pas du tout tous du côté des ONG hein, et des écologistes, loin de là. Et vous le racontez d'ailleurs au cours des débats qui ont eu lieu à Saint-Laurent-du-Maroni, par exemple. C'est extrêmement compliqué de faire comprendre aussi les intérêts des populations, alors que c'est aussi pourvoyeur d'emplois. Hein, donc c'est compliqué de faire entendre cette voix-là.
Bah aujourd'hui, la chimère en fait, de l'emploi, elle s'est un peu édulcorée avec le temps. Hein, parce que si les mines avaient apporté la prospérité et la richesse dans les territoires, eh bien, l'Amérique du Sud ne ressemblerait pas à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc il faut bien voir que l'Eldorado et tous les mythes qui l'accompagnent, aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui y croit, c'est un peu des histoires pour enfants. Et donc c'est pour ça qu'à la suite du débat public qui avait eu lieu sur le projet Montagne d'Or, un sondage avait clairement dit 7 Guyanais sur 10 sont opposés au projet Montagne d'Or. Et d'ailleurs, ça avait été aussi soutenu par le cabinet Deloitte, hein, qui n'est pas connu pour être des odieux capitalistes, qui avait dit de toute façon, les mines, c'est le secteur économique qui a le moins d'effets d'entraînement sur le reste de l'activité. Et donc, toutes les chimères d'Emmanuel Macron et puis aussi d'Arnaud Montebourg à l'époque, hein, qui était ministre du redressement productif, qui disait ça va créer un boom économique pour la Guyane, on le sait aujourd'hui, c'est faux, techniquement et économiquement faux.
Comment vous en êtes venue, vous, Marine Calmet, à vous intéresser à ce dossier en particulier et aux peuples autochtones également ?
Alors, pour plusieurs raisons, parce que en fait, j'étais fatiguée de la manière dont on fait de l'écologie en Occident, en France, en métropole. J'avais envie de voir autre chose. J'étais fatiguée par les pétitions, les manifs, les petits gestes comme ça qui n'apportent en fait pas grand-chose, pas beaucoup de satisfaction et on voit pas les choses bouger. Et je me suis dit, en Guyane, bizarrement, il y a quelque chose. Il y a des savoirs, il y a une sagesse auprès de ces peuples que j'ai envie de comprendre et dont j'aimerais m'inspirer pour proposer des solutions nouvelles et qui soient différentes. Et quand on regarde finalement la Guyane, c'est en fait un laboratoire à la fois du pire et du meilleur. C'est-à-dire, il y a en même temps tous ces projets. Alors, vous avez parlé de Montagne d'Or, il y a eu aussi les forages de Total. Mais c'est aussi le laboratoire de ce qu'on peut faire pour changer le monde réellement. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel énorme, cette sagesse amérindienne centenaire. Et puis, il y a aussi la possibilité de reconnaître des droits à la nature pour véritablement, justement, en devenir les gardiens. Et c'est un peu là-bas que j'ai tester, expérimenter, imaginer ce que j'aimerais proposer aujourd'hui.
Mais quel signal vous envoyez finalement à ceux qui quand même se mobilisent dans la rue, qui manifestent, qui signent des pétitions et qui ont l'impression quand même de faire quelque chose, de se bouger pour l'écologie? C'est pas rien quand même.
Ah bah, pas du tout. D'ailleurs, je soutiens et je continue évidemment à le faire. Ce que je dis, c'est qu'il faut l'ancrer dans quelque chose de plus profond. Il faut voir le tableau en entier et il faut s'impliquer dans des changements systémiques. C'est-à-dire, on peut pas se contenter de petites victoires. Il faut aller chercher en fait le mal à la racine, là où ça coince aujourd'hui dans notre société, et qui en fait est profondément lié à la manière dont on est lié avec le vivant.
Marine Calmet, vous êtes l'invitée de la Terre au Carré, devenir gardien de la nature. On en parle avec vous dans un instant, vous allez nous expliquer comment on peut justement devenir peut-être gardien de la nature. Voici Falls sur France Inter. Wake Me Up, c'était Falls sur France Inter.
La Terre au Carré. Sur France Inter.
Marine Calmet, vous êtes notre invitée, avocate de formation, juriste de l'environnement et donc des peuples autochtones. Comment vous avez choisi cette voie au sein justement de vos études en droit, alors de vous spécialiser dans la juridiction autour de l'environnement de la nature ?
J'ai pas vraiment choisi. Hein. Je dois avouer que le contexte actuel fait qu'on est attiré, on est dirigé, et puis on n'a plus vraiment le choix en fait. Si on veut faire quelque chose qui a du sens, eh bien aujourd'hui c'est notre mission de vie qu'on doit définir par aussi ce défi qui est le nôtre, le défi climatique, le défi biologique, et donc. C'est un appel, en fait.
Et vous pensez que aujourd'hui, particulièrement, on voit beaucoup, là, ces derniers mois, ces dernières années, la justice, finalement, qui est vraiment utilisée bien plus que les manifestations ou même les actions de désobéissance civile. On a l'impression que la justice, aujourd'hui, c'est vraiment la nouvelle arme, si je dois le dire comme ça, pour essayer de faire plier les dirigeants, qu'ils soient industriels ou politiques.
Alors, effectivement, en fait, il y a toujours eu des recours en justice. Je trouve que, par contre, ils sont beaucoup mieux médiatisés qu'avant, parce qu'on s'y intéresse. On sait peut-être aussi mieux communiquer sur ces questions aujourd'hui et mettre un peu de glamour dans tout ça, parce qu'avant, c'était un peu une niche. En revanche, je suis vraiment persuadée que les mobilisations et les recours juridiques vont ensemble. Je connais pas, en fait, de grandes décisions de justice qui n'aient pas eu aussi un retentissement dans les marches populaires. Il faut qu'on en parle, en fait. Il faut que ce soit un outil démocratique. Et pas que ce soit un outil d'expert. Et donc l'un va avec l'autre. Les mobilisations et les recours, c'est deux facettes de la même pièce.
Donc le droit pour les citoyens et pour les associations, hein, ça devient vraiment effectivement un outil aujourd'hui pour se mobiliser et pour avancer aussi sur ces luttes.
Bien sûr, c'est un outil par et pour les citoyens.
Ouais. Mais alors, est-ce qu'il est vraiment efficace? Parce que quand on prend la France, par exemple, qui a été condamnée il y a quelques mois pour son inaction climatique, justement, finalement, il y a une condamnation, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Au-delà, évidemment, du message très fort que ça envoie, du symbole que ça représente, finalement, est-ce que ça suffit?
En fait, ça a un effet boule de neige pour moi. C'est-à-dire que si on regarde la décision prise de manière isolée, on peut se dire, bon, effectivement, qu'est-ce que ça change? La vérité, c'est que ça entraîne énormément de choses. Et notamment en Guyane, on a eu une décision récemment dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'était sur la centrale au fioul du Larivo. Une idée brillante de Barbara Pompili, encore, construire une nouvelle centrale au fioul en 2021. Et ça a été un des procès menés par France Nature Environnement, gagné durant l'été. Le juge a tout simplement dit, en fait, ce n'est pas compatible avec les engagements climatiques de la France et a suspendu l'autorisation de travaux. Et donc, en fait, il faut voir ça dans une continuité. Il y aura procès après procès, victoire après victoire. Et au final, on arrivera, du coup, à faire changer les mentalités.
Alors, sur le front des droits, de la reconnaissance de la nature, il y a quand même des bonnes nouvelles en 2021, ça en fait partie justement, mais il y en a plein d'autres hein, dans le monde, en Europe aussi. S'il fallait en extraire un ou deux, en tout cas un exemple ou deux, sur ce qui se passe et qui puisse justement symboliser cette lutte qui est menée aujourd'hui, vous choisiriez quoi, vous, Marine Calmet?
Alors, on a une décision récente très intéressante parce qu'elle touche l'Amazonie, donc elle me parle. C'est en Équateur, c'est sur le parc de Los Cedros, où justement la justice, la cour constitutionnelle équatorienne, a décidé de suspendre et d'interdire définitivement toute exploitation minière dans le parc sur le fondement de l'article qui inscrit les droits de la nature dans la Constitution en Équateur. Et donc on voit comme ça aujourd'hui une dizaine de jurisprudences s'accumuler en Équateur et poser des jalons très clairs pour dire voilà ce qui est possible au regard des droits de la nature et voilà ce qui ne l'est pas. Et encore une fois, en fait, ces décisions, elles sont énormément suivies au niveau international. On est constitué en réseau mondial des droits de la nature. Et donc, ce qui se passe d'un côté de la planète a un impact très évident sur les recours en justice qui vont arriver un peu partout dans le monde.
Un autre exemple alors, qu'est-ce que vous retenez ?
Il y a énormément de décisions alors, et d'actions menées par des citoyens aux États-Unis en ce moment même, alors contre des projets miniers, notamment en Virginie, où les citoyens proposent à leur commune une ordonnance pour les droits de la nature, pour éviter justement l'implantation de projets miniers. Et puis, il y a également des plaintes, une plainte qui a été étonnamment déposée durant le mois d'août pour représenter en justice une espèce de riz sauvage en fait pour contester des autorisations de prélèvement d'eau dans les rivières parce que ces prélèvements d'eau aujourd'hui par rapport à la raréfaction des ressources en eau fait que ce riz est extrêmement en danger.
Mais alors concrètement, parce qu'il y a d'autres exemples, hein, il y a cette rivière par exemple au Québec, c'est la rivière Magpie, c'est ça, c'est son nom. En février, elle a obtenu le statut de personnalité juridique. Mais concrètement, ça veut dire quoi pour une rivière d'avoir un tel statut? Est-ce que ça lui garantit justement de pouvoir se protéger contre certaines pollution et les droits en particulier, c'est quoi alors?
Alors en fait, cette mobilisation, elle vient du fait qu'il y avait de gros projets de barrages hydroélectriques. Et les citoyens se sont dit, pour protéger les intérêts de la rivière, il lui faut 9 droits fondamentaux. Celui notamment donc de pouvoir couler librement et d'avoir une biodiversité en bonne santé. Et donc, ils se sont mobilisés et les peuples autochtones, notamment les Innus, qui vivent sur ce fleuve et qui dépendent de ce fleuve, se sont mobilisés. Et aujourd'hui, donc, ils ont obtenu la reconnaissance à la fois de 9 droits fondamentaux pour ce fleuve, mais aussi la reconnaissance de leur statut de gardien, c'est-à-dire qu'ils peuvent se constituer en gardien du fleuve et attaquer, non pas
donc
en leur nom, mais au nom
ils sont mandatés, concrètement, ils sont mandatés justement pour défendre le fleuve.
Ils ont un statut qui leur permet d'agir au nom du fleuve et dans les intérêts du fleuve, ils en ont même un peu l'obligation.
Donc c'est vrai qu'ils vont pouvoir intenter des actions, concrètement, dès qu'il y aura des menaces qui vont peser sur cette rivière. Il y a un autre exemple qui concerne l'Europe, et ça c'est une première aussi, c'est la Belgique, et ça vous pouvez nous en dire aussi quelques mots, puisque ce pays va déposer un amendement devant la Cour pénale internationale afin de reconnaître le crime d'écocide. Pourquoi c'est une première? Pourquoi c'est si important alors que ça n'est qu'un dépôt pour l'instant d'amendement hein?
Alors, c'est une première parce que c'est la première fois qu'un État européen vote devant son Parlement un accord qui comprend en fait 3 propositions. À la fois, créer une coalition d'États volontaires pour agir pour la reconnaissance du crime d'écocide. 2, déposer un amendement devant la Cour pénale internationale pour modifier le statut de Rome, inscrire la compétence en matière d'écocide devant la Cour pénale internationale. Et 3, rédiger un rapport pour ensuite inscrire le crime d'écocide en droit belge. Et donc en fait, c'est clairement un accord extrêmement solide dans le sens de la reconnaissance sur le long terme d'un écocide.
Mais ça va être long.
Certainement.
Ça, c'est toujours du long terme. Ouais. On n'a pas de petites victoires dans ce domaine-là, on n'a que des grandes victoires, mais il faut savoir se projeter, il faut savoir être patient et savoir en fait porter des combats qui nous dépassent.
Il y a un député belge qui s'appelle Samuel Cagolati, justement, qui se bat sur le front de l'écocide. On va l'écouter, c'était en février dernier déjà, au micro d'Arte.
Il faut savoir qu'il y a à peine 2 ans, le concept d'écocide était encore complètement inconnu au bataillon, au Parlement belge. Mais nous avons voulu, notamment avec la pression de la société civile très active en France, en Grande-Bretagne, aussi en Belgique, reconnaître que la planète peut enfin aussi être victime de crimes graves de destruction, comme pour les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre.
Le terme écocide doit faire son entrée dans le code pénal belge d'ici 2024, mais un autre projet est en cours.
Que nous déposions aussi un amendement au statut de Rome de la Cour pénale internationale de La Haye pour que ce crime puisse aussi être poursuivi au niveau global de la planète entière.
Voilà, c'est ce que vous nous disiez exactement, Marine Calmet, avec donc la voix de Samuel Cagolati. En tout cas, la Belgique a été beaucoup plus loin que n'importe quel autre pays en Europe. Hein.
Pour le moment, oui, ouais. Et il faut qu'elle soit rejointe.
Plus loin que la France.
Il faut qu'elle soit rejointe par des pays leaders, parce que pour modifier le statut de Rome, malheureusement, il faut une grande majorité d'États.
En France, justement, on en est où? Parce qu'Emmanuel Macron avait utilisé le terme écocide il y a, je crois, 2 ans dans une interview à Combini. Ça en est où? Parce qu'il l'avait utilisé, donc ça envoyait encore une fois un signal, mais aujourd'hui...
Alors, pour reprendre un peu ce qui s'est passé, c'est que donc durant la Convention citoyenne pour le climat, les citoyens ont voté à 99% pour l'adoption du crime d'écocide. Malheureusement, encore une fois, nous avons discuté avec les différents ministères et la proposition qui en est ressortie n'est pas du tout cohérente vis-à-vis des enjeux, mais aussi vis-à-vis des demandes formulées par les citoyens. Donc, on a une définition au rabais de délit d'écocide, qui est en fait un vague délit de pollution qui a été adopté dans la loi climat.
Annonce de la part de Barbara Pompili et de Éric Dupond-Moretti à l'époque.
Oui, assez ronflante. Le glaive de la justice va s'abattre sur les destructeurs, l'environnement. C'était effrayant. Sauf qu'en fait, ça a accouché d'une souris, puisqu'on s'est retrouvé avec un tout petit texte qui va vraiment pas servir à grand chose. Et puis surtout, qui prévoit des sanctions qui sont en fait minimes par rapport à ce qui est vraiment en jeu, là. Et donc, évidemment, on est déçus. Mais on va continuer parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est immédiatement modifier ce texte, faire en sorte que le remplumer, quoi, faire en sorte que vraiment on ait un texte qui soit fort.
Que ce soit pas un délit en l'occurrence.
Alors. En aucun cas que ce soit un délit. D'ailleurs, c'est pas cohérent parce que et c'était un moment un peu de gêne à l'Assemblée nationale. Je regardais les débats. Il se trouve que donc d'une main on votait un accord, un amendement pardon, disant oui au délit d'écocide, mais en France on s'engage pour que au niveau international il s'agisse d'un crime.
Ouais.
Donc il y avait un espèce de non-sens et de double discours qui était évident et on sentait bien que même les députés de la majorité se disaient ouais. Oh, pas très clair ce qu'on est en train de faire là.
Si comme Marine Calmet, vous avez envie de devenir gardien ou gardienne de la nature, restez avec nous, on va vous donner les clés pour emprunter peut-être cette voie, et ce sera dans un instant.
France Inter. La Terre au carré.
14h32 et c'est l'heure de repasser au vert, Camille Cronier.
Et comme un très grand nombre d'entre nous, d'entre vous, j'ai regardé le film Don't Look Up, sorti à Noël sur Netflix. Alors, j'entends d'ici ceux qui vont m'en vouloir de parler d'une source de pollution numérique, mais difficile de passer à côté de ce phénomène, hein, on peut le dire, puisqu'il est en haut des classements dans 94 pays. Ça fait la moitié du monde quand même. Et puis bon, c'est avec Leonardo DiCaprio,
voilà,
donc vous comprenez
pote.
Bien que je pouvais pas passer à côté. Alors, Don't Look Up, ne regardez pas en l'air, c'est l'histoire de scientifiques qui découvrent qu'une comète géante se dirige droit vers la Terre, impacte dans 6 mois et tente de le faire comprendre, notamment à la présidente américaine.
Cette comète est ce qu'on appelle une tueuse de planète.
C'est exact.
Quels sont les risques que ça arrive?
Il y a 100% de risque d'impact.
S'il vous plaît, ne dites pas 100%.
Ça va vraiment se passer.
On est sur du 99,78% pour être exact.
Oh, génial! Ok, donc c'est pas 100%.
Voilà, la difficulté de convaincre les dirigeants politiques, mais aussi les médias.
Vous trouvez qu'on n'a pas été assez clair? On est en train d'essayer de vous dire que notre planète est sur le point d'être détruite.
D'accord.
Eh bien, en fait, c'est notre manière de faire ici. Vous savez, on dédramatise les mauvaises nouvelles.
C'est vrai, ça aide à faire passer la pilule, je trouve.
Voilà, tout cela pendant que les rois de la technologie promettent, eux, de sauver, bien sûr, la planète grâce à leurs formidables inventions qui vont, en plus, permettre de récupérer les richesses de la comète. Il y en aurait pour 140 000 milliards de dollars.
Nos BIDS, c'est ainsi qu'on appelle nos drones d'exploration et acquisition chez Bash, vous les voyez ici, vont s'amarrer sur la comète. Et quand ces trésors qui nous tombent du ciel seront récupérés, la pauvreté telle que nous la connaissons, les injustices sociales, la perte de la biodiversité, toute cette multitude de problèmes ne seront plus que des vestiges du passé.
Ah, c'est beau, ça fait rêver. Désolé pour la version française par contre, mais on est à la radio, c'était plus pratique. Alors vous aurez bien compris que tout cela fait écho, évidemment, volontairement, à la situation actuelle, non pas de l'impact imminent d'une comète, mais de l'urgence climatique. Ça n'a pas échappé en tout cas aux scientifiques spécialistes de la question, comme Valérie Masson-Delmotte, qui a regardé le film en famille.
Au bout de quelques minutes, à tour de rôle, les deux filles ont dit « Ah, mais c'est exactement comme pour le climat !»
Et la coprésidente du GIEC ne les a pas contredites, ces filles, hein, puisqu'elle s'est reconnue, en tout cas ce qu'elle vit depuis plusieurs années.
La forme de désespoir n'a pas réussi à se faire entendre. La manière dont on est perçu. Je me souviens d'avoir été très heurtée, moi, par le titre d'un portrait dans Le Monde il y a très longtemps, où on m'avait appelé Passionaria. Et la manière dont cette scientifique féminine est traitée m'a fait repenser à ça. Le fait d'avoir participé à des évaluations approfondies et puis avoir 3 minutes en fait hein, pour en présenter les points clés avec des questions de base. Oui, ça je l'ai vécu.
Et ce n'est pas tout, elle a reconnu également le cynisme des puissants et la folie médiatique, parfois légèrement à côté de la plaque.
Ça m'a rappelé la sortie du rapport du GIEC cet été, donc le 9 août, où on avait en même temps l'arrivée de Lionel Messi au PSG.
Et vous vous souvenez bien sûr de ce qui a fait les plus gros titres et parlé. C'est le film le plus précis que j'ai vu sur l'absence terrifiante de réponse de la société au dérèglement climatique, écrit Peter Kalmus, climatologue de la NASA, dans une tribune intitulée « Don't look up, capte la folie que je vois tous les jours », c'est dans le Guardian en Angleterre. Mais d'autres chercheurs sont un petit peu moins emballés par le film, comme par exemple le sociologue Stéphane Aïkout de l'université de Hambourg, spécialiste des politiques climatiques.
Comme métaphore pour le problème climatique, il fonctionne moyennement. Parce que la comète, finalement, il suffit de faire une décision à un moment donné pour stopper la comète. Or pour le climat, c'est des centaines de décisions. C'est des décisions sur des longues années. Et donc, il me semble que l'image de l'astéroïde gomme un peu cette diversité sociétale qu'il faut mobiliser pour vraiment faire face au changement climatique.
Le côté binaire et le fait qu'écouter la science, c'est une base, hein, mais ce n'est pas une solution. Il faut construire des alliances, dit le chercheur, qui rend quand même hommage au film.
Il faut plus de films comme ça, parce que finalement, ça nous fait discuter, c'est ce qui est important.
Et puis, ça titille aussi certains cris que les scientifiques, les vrais, s'empêchent de pousser.
Alors en anglais, c'est « Are you fucking kidding me ?» Et en fait, c'est le truc que moi, j'arrive pas à dire quand je suis devant des gens et qui manifestent une indifférence totale ou un déni total. On voit bien qu'ils captent pas les choses ou qu'ils font exprès de pas les capter.
Parfois, vous aimeriez pouvoir dire « Are you fucking kidding me ?»
Exactement.
Je vous assure que je ne suis ni dans un camp ni dans l'autre. Putain, je vous dis rien d'autre que la vérité.
Je crois que
la présidente des États-Unis d'Amérique se fout de votre gueule. Et je suis sûr et certain qu'on va tous crever.
Bon alors ça c'est une autre question. Est-il possible qu'une comète géante soit découverte 6 mois avant son impact et nous dégomme tous? Eh ben vous aurez la réponse demain.
Voilà, avec la colère de Leonardo DiCaprio, Meryl Streep en présidente des États-Unis et Ariana Grande quand même qui
Ariana
chante
Grande,
dans le film.
Hein, voilà, avec qui nous fait un grand concert et Jennifer Lawrence.
Absolument.
Évidemment. Marine Calmet, est-ce que vous l'avez vu ce film?
Non, malheureusement, mais je vais m'empresser de le faire.
Ouais, ça vous a donné envie, je crois, parce qu'on en parlait hors antenne tout à l'heure.
Ça m'a donné envie et en même temps, je me dis effectivement, ça, par rapport au climat et à la question climatique, ça donne l'impression que c'est extérieur. Or, c'est nous la comète. Hein. Il faut se rendre compte qu'on a justement notre rôle à jouer et le fait que, en devenant gardien, à mes yeux, on puisse tous justement prendre part à ce qui est notre responsabilité commune, ce qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de nous, en fait. Justement, c'est ça le grand défi pour moi.
Avec une échelle temporelle qui n'est pas la même, effectivement, aussi.
Non plus.
Hein. C'est que le combat, il est long hein, pour le climat.
Tout à fait.
Allez, on se retrouve dans un instant. Gardien de la nature, c'est ce livre que vous avez publié chez Tana Éditions et qui vous vaut ce prix du livre de l'écologie. Saprève, Polo et Pan à l'instant sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Marine Calmet, avocate de formation, juriste de l'environnement, militante avec entre autres ce livre « Devenir gardien de la nature ». Vous êtes quoi d'ailleurs officiellement alors ?
Un peu de tout ça.
Ouais. C'est tout ce ça qui vous plaît d'ailleurs finalement.
Oui, j'adore. Hein. Surtout pas rester cantonné. Je suis dans la création de droit.
Donc créer du droit. Oui. Donc c'est du droit qui se crée en fonction justement des réalités nouvelles aussi et,
en fait,
et des problématiques
qui se posent. En fait, je me pose jamais la question de savoir ce qui est légal, je me pose la question de savoir ce qui est souhaitable. Ouais. Et grâce à ça, ça me permet en fait tout simplement de me dire quels sont nos besoins, quels sont les besoins qu'on voit aujourd'hui dans la nature et donc quel droit il faudrait proposer pour ça.
Et quand vous parlez droit de l'environnement avec le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, ça donne quoi comme style de conversation ?
C'est des discussions un peu lunaires. Je crois vraiment que là, on est comme dans Don't Look Up, on est avec des personnes qui ne savent pas vraiment de quoi elles parlent et qui sont pétries de certitudes, qui n'écoutent pas des gens qui pour autant sont sur le terrain, qui travaillent sur ces sujets depuis des années. Et donc on a vraiment besoin de changer en fait.
Ouais, mais qu'est-ce qui n'est pas compris alors de la part quand même d'un spécialiste du droit quand même ? C'est pas juste le ministre de la Justice, c'est quand même quelqu'un qui a un passé dans ce domaine.
Non, ce sont surtout des gens qui pensent qu'il faut rester dans un statu quo, qu'on peut faire des petites mesures comme ça à la marge. Alors qu'en fait, le problème, c'est que non, l'environnement n'est pas là pour assouvir les besoins humains. L'humanité n'est pas au sommet de la pyramide du vivant. Et puis surtout, notre monde ne se résume pas à un dialogue entre êtres humains. Il est beaucoup plus complexe, beaucoup plus vaste. Et notre droit de l'environnement, il est incapable structurellement de répondre à ces besoins si on n'est pas capable d'élargir justement les frontières de la communauté du vivant, c'est-à-dire considérer que nous ne sommes pas les seuls êtres à disposer de droits.
Juste une question, le droit de l'environnement, il a été créé quand ? C'est assez récent finalement par rapport à...
Non, c'est pas récent, mais c'est très progressif. Parce qu'en fait, ça a été complètement associé à la relation que nous avions avec la nature. C'est-à-dire que, à l'origine, c'était surtout un droit qui protégeait les paysages. Parce qu'il y avait un attachement émotionnel.
Mais c'était
émotionnel.
Ça date de
Alors, mais c'est
les,
vraiment
les premiers articles.
Ça, en fait, on peut pas le dater exactement parce que ça remonte à plusieurs étapes. Disons qu'il y a eu d'abord un attachement au paysage qui fait qu'on a commencé à protéger le cadre en fait dans lequel nous vivons. Et puis ensuite, progressivement, et surtout dicté par les besoins industriels, on en est venu à réguler les mines, on en est venu à réguler la coupe des forêts. Je vous parle de ça de plusieurs centaines d'années, hein, sur lesquelles c'est progressivement, même à l'époque des rois, encore, on a déjà commencé. Et puis ensuite, avec Napoléon Bonaparte, parce qu'on avait des besoins industriels, il a fallu cadrer la manière dont, en fait, et c'est comme ça que s'est construit le droit de l'environnement, c'est pour ça qu'il est autant anthropocentré, c'est qu'en fait, c'est un droit qui encadre la manière dont nous nous servons et dont nous puisons dans la nature.
Alors justement, une question de Julie sur franceinter.fr qui nous écrit « Le fait de donner des droits à une rivière, par exemple, n'est-ce pas une démarche finalement très anthropocentrée ? Est-on obligé de passer par le fait que les entités naturelles aient une personnalité juridique, comme les humains, pour les protéger ?»
Alors, en fait, aujourd'hui, l'idée qui nous guide, c'est de dire que tant qu'on considérera la nature comme un ensemble de ressources inertes qui sont juste là pour nous servir, nous ne pourrons pas avoir une relation qui soit cohérente avec le fonctionnement du vivant. Et donc, il s'agit aujourd'hui d'élargir, en fait, le nombre et le statut des détenteurs de droits. De la même manière que, il y a une époque pas si lointaine, on a reconnu que les peuples autochtones étaient bien des êtres humains. À une époque où, ensuite, on a aboli l'esclavage et on a considéré que non, il n'était plus tolérable dans notre société, après l'époque des Lumières, de considérer qu'il y avait des maîtres et des esclaves, des biens qui pouvaient être des biens humains attachés à une personne, qui pouvaient être vendus, exploités, tués, jetés au fond des mines, comme on a vu en Amérique du Sud. Et puis finalement, on a aussi reconnu des droits aux femmes, puisque pendant longtemps, les femmes étaient des sous-hommes. On n'avait pas le droit de vote, on n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque. Et puis, de la même manière que justement, il y a eu cet élargissement progressif de la communauté humaine, les femmes ont pris toute leur place dans la société, ben aujourd'hui, nous, on ne dit rien de plus que, en fait, nous regardons aujourd'hui le monde à travers des lunettes déformantes, des lunettes qui nous donnent une vision étriquée du vivant et de la société dans laquelle on vit. On n'a pas pris en considération les interrelations entre humains et non-humains. Est-ce que c'est ce qu'on s'apprête à corriger, en fait, tout simplement, en donnant aussi des droits aux entités naturelles?
Donc un statut juridique, ça montre aussi l'évolution de nos relations entre humains et non-humains, au fond. C'est ça aussi que ça dit de la société aujourd'hui. C'est qu'il y a quand même quelque chose qui progresse sur ce front-là.
On est dans en fait, on va élargir aussi les perspectives dans notre société, puisque anthropocentré, en fait, ça veut surtout dire que tout ce qu'on considère autour de nous, c'est en fonction de nous-mêmes. Là, on dit, il faut considérer les besoins de la rivière pour elle-même, les besoins des animaux pour eux-mêmes. On n'est pas, à mon avis, pas du tout dans une relation justement anthropocentrée à la nature. On essaye au contraire de se mettre à la place, de reconstruire une empathie qui a été détruite.
Marine Calmet, vous dites, on n'est pas gardien de la nature foncièrement, mais on le devient. Alors, pour ceux et celles qui nous écoutent, si on a envie justement de s'y mettre,
méthode,
ça veut dire quoi? Et voilà, être un gardien de la nature, alors c'est quoi concrètement?
Alors, en fait, il s'agit justement pour moi déjà de sortir un petit peu de ces méthodes traditionnelles, de revenir, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à une écologie plus profonde à l'intérieur de nous-mêmes. Et souvent, donc, je l'illustre par un exemple qui est le mien, puisqu'il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, moi aussi, je suis devenue gardien d'un autre être vivant. Ouais. J'avais aucune compétence, aucune expérience, pas de diplôme. Et pourtant, j'ai eu l'idée un peu folle de devenir maman. Et il se trouve que quand on devient maman, on a des droits, mais aussi et surtout des devoirs sur un autre être vivant. C'est moi qui ai la tutelle légale sur lui, qui parle à sa place, qui prend des décisions dans son meilleur intérêt.
C'est la mère juriste qui parle. Là,
exactement. Et si j'ai ces droits, et si j'ai cette capacité de le représenter, c'est parce qu'on part du postulat dans notre société que les parents sont les mieux placés pour défendre les intérêts de leur enfant. Et donc, on voit bien avec ça que ce n'est pas parce que j'ai des capacités ou des compétences techniques, je ne sais pas comment ça fonctionne, je l'ai découvert sur le tas, je me suis forgée aussi au métier de mère. Aujourd'hui, ce qui fait que justement j'ai cette capacité, c'est parce que je suis profondément liée à mon enfant. Parce que si dans notre société, on considérait les choses autrement, eh bien on confierait nos enfants à des sages-femmes ou à des médecins. Or, c'est bien ce lien d'attachement qui fait foi.
Et donc le pont avec le gardien de la nature?
Eh bien, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, on constate que l'État a failli dans sa mission de gardien, a failli dans sa mission de protecteur. Ça fait des années qu'on est au courant du réchauffement climatique, de la destruction de la biodiversité, et l'État a profondément échoué dans sa mission. Et donc je considère que devenir gardien de la nature, c'est tout simplement reprendre la tutelle, reprendre nos droits sur la protection du vivant. Et je crois que tout le monde en a la compétence, parce que il suffit de savoir, de se poser la question au fond de soi. Est-ce que vous avez déjà été triste en voyant une rivière polluée? Est-ce que vous avez déjà été en colère en voyant des coupes rases de forêt? Est-ce que vous avez ressenti ces sentiments de colère, d'attachement, de tristesse? Dans ce cas-là, moi, je pense que vous avez profondément ce qu'il faut au fond de vous pour être gardien. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul, parce que ce mouvement, il est partout dans le monde.
Comment on fait alors pour être gardien de la nature?
Est-ce que c'est un statut qu'on doit acquérir comme lanceur d'alerte, par exemple, ou pas? Ou c'est beaucoup plus facile et...
Alors aujourd'hui, ceux qui ont un statut le plus proche en fait de gardien, ce sont les associations de l'environnement, puisque ce sont elles qui peuvent agir en justice pour protéger la nature. Et donc, un des moyens pour devenir gardien aujourd'hui, c'est très concrètement d'adhérer et de devenir militant, bénévole dans une association écologiste. Il y en a pour quasiment tous les écosystèmes en France aujourd'hui. Vous pouvez vous investir dans une association à l'échelle nationale, à l'échelle locale. C'est extrêmement important parce qu'il faut savoir que nos associations écologistes en France aujourd'hui, ce sont les seuls garde-fous face aux actions du gouvernement, face à la destruction du vivant.
Mais donc, être gardien de la nature, c'est plus un engagement associatif, on va dire, que sur le terrain, garder telle prairie pour qu'en gros, on n'y touche pas.
Mais il y a beaucoup d'associations qui, justement, font ça, sauvegardent des écosystèmes, font en sorte que, justement, par exemple, comme le collectif Hors de Question, des projets miniers ne viennent pas détruire les forêts. Il y a tout un tas, en fait, d'associations qui, aujourd'hui, œuvrent pour ça. En revanche, pour moi, il faudrait que ce soit un statut aussi. Il faudrait que ce soit un rôle à part entière dans notre société. Parce qu'il y a une forme d'incohérence.
Mais on devrait tous l'être, pardon. Est-ce que justement, en fait, on ne devrait pas tous être gardiens de la
justement,
nature
c'est
sans
ce que j'allais
ce soit
dire.
Justement un rôle?
Oui, exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que dans notre charte de l'environnement, qui est quand même un des textes constitutionnels, il y a un article 2 qui dit que chacun d'entre nous doit œuvrer pour la protection de la nature. Or, on nous restreint en fait la capacité à agir, c'est-à-dire que vous, individuellement, vous ne pouvez pas agir pour représenter un écosystème, vous ne pouvez pas agir en justice contre un permis minier ou un permis pétrolier, et vous ne pouvez pas agir au nom de la nature. Or, c'est tout ça qu'il faut changer aujourd'hui, c'est-à-dire donner une personnalité juridique à la nature et lui donner des gardiens pour qu'elle puisse se défendre.
Marine Calmet, on a plein de gardiens et de gardiennes qui nous écrivent là.
Gilles nous demande s'il existe, par exemple, une méthode pour extraire de l'or tout en étant respectueux de l'environnement. Est-ce que ça existe ?
Alors, à mes yeux, c'est totalement impossible, non seulement parce que, pour deux raisons, l'or n'étant pas renouvelable, il n'y a pas d'exploitation minière durable. Et deuxièmement, en fait, aujourd'hui, l'or qui reste, parce que il faut savoir qu'il y a deux types d'or, l'or dans les rivières, l'or alluvionnaire et l'or primaire, l'or qu'il y a dans le sol. Aujourd'hui, on a extrait déjà deux tiers des ressources en or sur cette planète, il en reste un tiers, et cet or est de plus en plus profondément enfoui. Et donc, il faut broyer la terre, il faut la détruire, la concasser très finement et la traiter avec des produits chimiques. Et aujourd'hui, je ne crois pas que cela soit compatible avec développement durable.
Donc, quand on parle d'enjeux aussi économiques, d'emploi, hein, qui sont quand même aussi réels, vous, quelque part, votre discours rejoint celui de la sobriété, c'est-à-dire, en gros, ne pas exploiter plus que besoin.
En fait, comme je vous disais tout à l'heure, le secteur minier, il n'est pas autant pourvoyeur d'emplois que bien d'autres secteurs.
Oui, mais je parle en général, je veux dire, si on doit exploiter la terre pour manger, enfin, je veux dire, on va forcément exploiter la terre d'une façon ou d'une autre. Oui. Il y a des besoins de toute façon, donc en gros, qu'est-ce que vous dites à ça, en fait, tout simplement ?
Tout simplement qu'il y a des lois du vivant qui font en sorte qu'il faut trouver en fait un compromis entre nos besoins et ceux de la nature. Et ce compromis, ça doit être une quête permanente, c'est-à-dire mesurer en fait les impacts, et on en a les capacités scientifiques. Aujourd'hui, c'est pas comme si on était totalement dépourvu, de trouver justement les meilleurs moyens de travailler ensemble. Aujourd'hui, par exemple, dans la forêt amazonienne de Guyane, il y a des connaissances scientifiques qui ont une valeur bien plus élevée, que ce soit dans le domaine de la cosmétique, de la santé, etc., que tout l'or que vous pourrez aller trouver dans le sol en coupant les arbres. Donc aujourd'hui, il faut réorienter tout simplement nos priorités. Est-ce qu'on prend soin de nous et de la nature, ou est-ce qu'on va détruire jusqu'à la plus petite parcelle de la forêt amazonienne ?
C'est une scène que vous racontez dans le livre, justement, au cours de débat public à Saint-Laurent-du-Maroni. Il y a cet homme qui fait partie d'une famille d'orpailleurs traditionnels, qui dit, ben voilà, on n'aura plus de boulot parce que justement, votre voix d'écolo et vos messages vont à l'encontre de nos intérêts sur le terrain. Donc c'est compliqué hein, de faire entendre les choses.
Oui, c'est compliqué, mais en même temps, vous savez, pour quelques-uns qui s'enrichissent, tous les autres subissent les impacts négatifs, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, la destruction de leur culture. Et donc, en fait, pour quelques-uns qui sont très bruyants, il y a tous les autres qui souffrent en silence.
Thomas Fersen, autre gardien de la nature, mais en chanson sur France Inter avec le bal des oiseaux.
Ma vie, je quitte mon père. La ville attend les petits rats des champs. Une jolie fermière me dit, où vas-tu ? Monte derrière avec les laitues. Les pieds dans le ciel, chez les hirondelles. Nous filons doux et la route est à nous. Petit, la vie est belle à l'école buissonnière. Nous irons danser bal des oiseaux près de la rivière. Les prés sont verts. Quel âge as-tu, toi? J'ai beau demander un café au lait, on me donne rien, même un morceau de pain. La campagne se prête à tout, mais la ville pas du tout. Nous irons danser au bal des oiseaux près de la rivière. Thank you.
Le bal des oiseaux, ça fait du bien de l'entendre. Thomas Fersen à l'instant sur France Inter. Dans la Terre au Carré, nous accueillons Marine Calmet aujourd'hui, avocate de formation, juriste de l'environnement et des peuples autochtones, pour le droit en tout cas des peuples autochtones, et des questions Camille.
Oui, alors on a d'abord Marine Calmet qui nous écrit sur Facebook, elle ne vous connaissait pas mais elle est entièrement d'accord avec vos propos. Il faut des changements systémiques, nous dit-elle. Axel, lui, sur Twitter nous écrit, améliorer l'outil juridique c'est sûrement nécessaire, mais que faire quand la justice est achetée par les ultra-riches, par exemple, pour éviter les procès?
Bah, c'est un peu, justement, la solution aussi que veut proposer le mouvement pour les droits de la nature, c'est qu'on voit bien que le droit de l'environnement, il a été écrit par et pour les industriels. Moi, je m'en suis rendu compte à mes dépens, justement, quand il faut attaquer Montagne d'Or ou Total. On se rend compte qu'en fait, avec les outils qu'on a, c'est inefficace. On perd nos procès. Dans certains cas, on a des petites victoires.
Même quand il y a des lois qui existent, hein, d'ailleurs. Hein, ce qui était le cas de Total avec la loi Hulot, par exemple.
Bien sûr, il y avait la loi Hulot qui prenait justement la sortie du pétrole. Et ça n'a pas empêché le juge de laisser ce projet se faire. Et donc, du coup, voilà, on est vraiment dans, aujourd'hui, la recherche d'une solution juridique nouvelle qui, justement, nous dise non, il n'y a pas que des lois écrites par et pour les humains, il y a aussi les lois du vivant. Et ces lois du vivant, elles viennent chapeauter, finalement, nos lois, et on doit les prendre en considération. Et donc, pour moi, justement, c'est un barrage aussi au fait que la justice et les lois puissent être écrites pour les besoins de quelques-uns au lieu d'être écrites au bénéfice de tous.
Une dernière question de Nicolas sur l'application France Inter. Il vous demande votre avis pour faire réagir nos politiques et nos élites sur le problème de l'écologie et du changement climatique.
Bah, je vais être assez positive parce que aujourd'hui en France, alors pas à l'échelon national, malheureusement, je crois qu'il n'y a plus rien à attendre, mais à l'échelon local, il y a beaucoup de réactions, beaucoup d'élus, de représentants qui se bougent aujourd'hui et qui disent « Ah oui, mais effectivement, les droits de la nature, c'est un vrai sujet. » Ils s'inspirent de ce qui se passe ailleurs dans le monde et nous disent « Nous, on veut au contraire savoir comment utiliser ces outils. » Avec l'association Wild Eagle, dont je suis la présidente, on accompagne justement des élus sur le terrain, des gestionnaires d'écosystèmes qui protègent des rivières, des fleuves, etc. à travers diverses initiatives pour les former et leur donner des outils juridiques concrètement pour reconnaître des droits à la nature en France.
Le Rhône, la Loire par exemple, un programme de labellisation des rivières sauvages pour les protéger, et on voit un mouvement qui concerne les citoyens, parce que là aussi c'est du concret, et on voit qu'il y a un attachement sentimental hein, presque de tous ces milieux, ces écosystèmes de proximité.
Oui, en fait aujourd'hui il y a déjà beaucoup de gardiens hein, et de gardiennes de la nature. Ce qui manque c'est justement reconnaître leurs droits et leur statut. Et donc on les accompagne, on leur donne des outils juridiques pour ça, pour faire émerger rapidement ce mouvement des droits de la nature en France.
Et toutes les infos sont dans cet ouvrage chez Tan Édition, donc Devenir gardien de la nature, qui a reçu le prix du livre de l'environnement. Merci Marine Calmet.
Merci
d'être venue aujourd'hui dans la Terre au Carré.